L'hyper revue de presse sur France Info, Jean-Christophe Martin et Mathieu Beauval viennent d'arriver. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
À la une des journaux, Jean-Christophe, ce matin.
Les Français toujours drogués aux tranquillisants et Pôle emploi qui déborde.
Et sur Internet, Mathieu, le programme.
Comme vous l'aviez dit, une application Internet pour les enfants et les préadolescents, ainsi qu'un film de science-fiction interdit par la NASA.
Cette application s'appelle Bayam. Nous serons en direct avec Stéphane Bataillon de Bayard Presse, qui est donc le rédacteur en chef de ce nouveau site pour les enfants qui permet aux plus jeunes de découvrir le meilleur d'Internet avec des contenus sécurisés. On va voir ça dans un instant, mais d'abord Jean-Christophe, les titres de ce mardi.
Et encore du triple A, en veux-tu, en voilà, les agences de notation s'invitent dans la campagne. C'est le titre à la une de La Croix qui relève la contradiction. Une agence, Moody's, qui maintient à la France son 20 sur 20, tandis que les candidats à la présidentielle doivent bien prendre en compte la dégradation par l'autre agence, Standard & Poor's. La vie sans triple A, mode d'emploi, c'est aussi la manchette de la Tribune. Et le gros titre à la une du Figaro est cette fois pour souligner le désaccord entre les agences de notation. La Dépêche du Midi s'interroge à la une toujours. Mais qui faut-il croire ? Un autre des grands titres ce matin dans la presse nationale comme régionale, c'est l'essence qui bat son record historique. C'est la manchette des Échos. L'essence atteint des sommets, constate aussi le Parisien. L'essence qui plombe les budgets. C'est la une de l'Union à Reims. Les budgets des particuliers, mais aussi le budget de la France. Et un chiffre résume le poids de la facture énergétique de la France. Elle s'est envolée de 40% en seulement un an. Enfin, demain, le sommet social à l'Elysée, autour de Nicolas Sarkozy. C'est la une de l'Humanité. Le sommet social sera-t-il vraiment utile à l'emploi ? Réponse avec un sondage dans l'Humanité. 73% des Français répondent non. Ils ne croient pas que ce sommet va vraiment servir à quelque chose. Pour l'Humanité, l'opinion n'est pas dupe des intentions du président, alors que la droite multiplie les surenchères en matière de régression sociale.
Et à la veille de ce sommet, Jean-Christophe, voilà un diagnostic inquiétant pour Pôle emploi.
Oui, des chiffres officiels en plein appel gouvernemental à la mobilisation contre le chômage. Pôle emploi est au bord de l'implosion, annonce le Parisien et Aujourd'hui en France, qui dresse un état des lieux accablant. À sa création en 2008, l'objectif était de faire suivre 60 chômeurs par un seul conseiller. Ça, c'est le chiffre officiel. Aujourd'hui, toujours un chiffre officiel, les conseillers, chaque conseiller de Pôle emploi a en charge 115 chômeurs au lieu de 60. C'est déjà loin des ambitions initiales. Et sur le terrain, selon le Parisien, on en est encore plus loin. Le chiffre monte souvent à 200 demandeurs d'emploi pris en charge par un seul conseiller, avec même un record qui paraît absurde, 655 dans l'Essonne. Ces quatre dernières années, Pôle emploi a enregistré près d'un million d'inscrits supplémentaires, un afflux qui a fait voler en éclats la réorganisation du service public de l'emploi, d'où l'exaspération croissante des agents et des demandeurs d'emploi qui se retrouvent souvent de fait abandonnés et des chiffres officiels très loin de refléter la réalité.
Autre chose, Jean-Christophe, et c'est un sujet préoccupant, les Français consomment toujours trop de tranquillisants.
Eh oui, encore des chiffres, cette fois dans le Figaro, il en ressort que les Français consomment trop de psychotropes. Chaque année, un Français sur cinq consomme au moins un médicament style Lexomil ou style Nox, essentiellement contre l'anxiété ou l'insomnie. La France, ce pays d'angoissés, toujours dans le peloton de tête des drogués européens, avec 134 millions de boîtes consommées l'an dernier, la France se range chaque fois à la deuxième place. Pour les anxiolytiques, c'est derrière le Portugal, et pour les hypnotiques, c'est derrière la Suède. La courbe, publiée dans le Figaro, était en baisse depuis une dizaine d'années. Elle semble repartir à la hausse depuis deux ans.
9h21 sur France Info, une nouveauté sur Internet ce matin avec vous Mathieu Beauval. Il s'agit d'espaces numériques pour les enfants créés par l'éditeur Bayard Jeunesse.
Deux univers en fait, un pour les enfants de 3 à 7 ans et l'autre pour les plus grands jusqu'à 13 ans, deux univers qui s'appellent Bayam.
Bayam, c'est un espace ludique qui accompagne votre enfant tout au long de l'année. Surfez sans risque avec un navigateur adapté, jouez à des jeux d'action, réflexion, sport. Découvrir le monde avec des documentaires interactifs, regarder les dessins animés de ses héros préférés, écouter de la musique, des histoires, créer avec des bricolages et des activités variées.
Deux formules vous sont proposées. Il y a un accès gratuit, mais qui est forcément limité, et une offre payante.
Avec la petite musique qu'on vient d'entendre, là ?
Ah non, ça c'était la petite musique de présentation. Je ne suis pas sûr que vous soyez obligé d'en souffrir sur la totalité de votre navigation sur Bayam. Et donc, en tout cas, une offre payante qui va permettre de pouvoir accéder à tous les services de ces portails pour les enfants et donc les préadolescents. Les parents vont être rassurés avec les histoires de Petit Ours Brun ou de Sam Sam, qui sont les héros préférés des tout petits.
On est sur du classique, là, mais exactement. C'est du bon classique.
et un navigateur Internet sécurisé et contrôlable pour les 7-13 ans.
On va en savoir davantage avec l'invité de l'hyper-revue de presse, Stéphane Bataillon, rédacteur en chef de Bayam. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints. Comment ça marche, Bayam ?
Bayam, en fait, c'est deux applications, donc je confirme pour la musique. Hein,
c'est bon.
Deux applications à télécharger sur le bureau de son ordinateur, PC ou Mac, une pour les 3-7 ans et une pour les 7-13 ans. Avec la volonté, à côté de effectivement de dessins animés classiques, de proposer à l'enfant ses premières expériences et sa première initiation dans le numérique, avec des sites qu'on sélectionne, que la rédaction sélectionne. Donc pour les 7-13 ans, c'est un premier navigateur sécurisé, sans aucune publicité.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples alors de contenu sécurisé ?
Oui, tout à fait. Par exemple, cette semaine, on a une exploration de la Rome de Jules César. On a un retour sur l'actualité. Chaque jour, on explique l'actualité aux enfants. Donc aujourd'hui, c'est le naufrage du Concordia. On a des défis littéraires aussi. On va proposer aux enfants de créer soit des histoires à la manière de Lou Bapo, soit de nous envoyer des dessins. Donc ça marche très bien. Notre principe, c'est en fait de développer, de se servir des nouvelles technologies pour proposer aux enfants de découvrir le monde et de connecter ces nouvelles technologies-là à leur quotidien, tout en s'amusant avec des jeux vidéo, des dessins animés et plein de choses.
Mathieu ? Alors, justement, on parle de nouvelles technologies avec ces deux services. Vous n'avez pas peur d'éloigner encore un peu plus les enfants du livre et des supports papier, en fait ?
Non, pas du tout, parce qu'en fait, les technologies numériques sont une réalité pour les enfants aujourd'hui. Ils les utilisent de toute manière. Ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de continuer ce qu'on fait dans nos magazines depuis 30 ans, c'est-à-dire d'ouvrir les enfants sur le monde et sur les autres.
Vous parliez de la sécurité tout à l'heure. Est-ce qu'on peut vraiment laisser son enfant seul devant l'écran une fois qu'il est connecté ?
Écoutez, oui, parce que c'est vraiment une application qu'on télécharge avec une icône sur son bureau. Donc l'enfant n'a pas un accès direct à Internet. Pour les 3-7 ans, c'est vraiment une sorte de forêt magique qui lui permet de naviguer dans les contenus, dans les coloriages, tout ça. Et le 7-13 ans, on a donc un premier navigateur. Et les sites sont soit proposés par la rédaction, soit les parents peuvent, de manière sécurisée, le proposer à leur enfant.
Oui, donc c'est encadré. Une version gratuite mais limitée, une version payante, c'est combien la version payante ?
Alors c'est à partir de 3 euros par mois pour avoir accès à tous les contenus, sachant que sur le 3-7 ans, la version gratuite a déjà quelques contenus, et sur le 7-13 ans, bien sûr, le navigateur est gratuit. Ce qu'on fait en fait payer, c'est des contenus exclusifs, originaux, que l'éditeur, donc qui est l'alliance en fait des productions de Bayard et Milan, qui sont deux éditeurs donc de référence hein, en presse jeunesse.
Et c'est tout ça donc à découvrir avec voilà. Bayam. Merci Stéphane Bataillon.
Merci beaucoup,
on fera un lien sur la page de l'hyper revue de presse de France Info, franceinfo.fr. Votre choix du matin sur le web, Mathieu. Rien à voir avec ce qu'on vient d'évoquer.
Rien à voir.
C'est l'histoire d'Hypernova, un groupe de rock iranien exilé aux États-Unis.
C'est une histoire à découvrir sur le site slate.fr. Hypernova, c'est son nom, c'est ce groupe qui a fui la censure du régime des Mollahs. Et les quatre membres de ce groupe vivent désormais à Brooklyn. Ils ne chantent pas en persan, mais en anglais, bien loin des musiques traditionnelles qui sont les seules normalement autorisées à Téhéran. So we are Hypernova, and we come from the undergrounds of Iran. Nous sommes Hypernova, nous venons de l'underground iranien. Si vous suivez l'actualité, vous savez sans doute que la population se soulève contre l'oppression d'un régime fasciste qui n'hésite pas à tabasser les jeunes dans la rue. Nous dédions cette première chanson qui s'appelle « Viva la résistance » à tous ces jeunes qui résistent au fascisme. C'est donc du rock un peu sombre, vous l'entendez, des paroles sans concession à Téhéran, Hypernova joué dans la clandestinité et en sourdine avec des matelas posés contre les murs. Les membres du groupe apprenaient à se servir de leurs instruments en regardant des vidéos de Nirvana achetées au marché noir. Le risque pour eux, destruction du matériel, amende et voire même prison, comme pour tous les amateurs de rock, de métal ou de rap en Iran. Aujourd'hui, ils vivent en exil à Brooklyn, loin de la censure, et continuent de dénoncer le régime iranien dans leurs chansons, même si leurs textes les plus contemporains parlent aussi d'amour et de poésie. Diffusés sur MTV, chroniqués dans le New York Times lors de leur premier concert aux USA il y a 3 ans, Hypernova espère tourner en Europe cette année. Our voices will be heard,
people. Et on va aller suivre Hypernova que vous nous faites découvrir, Mathieu Beauval, ce matin. Autre histoire à découvrir sur le web, le premier film de science-fiction vraiment tourné dans l'espace. Et pas de chance, il est interdit par la NASA.
Ah bah c'est une histoire à lire sur le site Gizmodo, c'est une histoire assez rigolote. Ce film s'appelle « L'apogée de la peur ». Bon, en fait, on est vraiment loin du court-métrage inspiré par Alien.
On entend presque la musique là aussi derrière.
Je vous rappelle que dans l'espace, personne ne vous entend crier, Jean. Donc on est loin d'Alien, on est loin de 2001, Odyssée de l'espace, très loin même, puisque « Apogée de la peur » est un petit film imaginé réalisé par un touriste de l'espace. Il s'appelle Richard Garriott, il a dépensé 30 millions de dollars pour un tour dans la Station Spatiale Internationale. Et comme tous les milliardaires interstellaires, il a ramené sa caméra, mais il a aussi ramené son scénario. Résultat, l'apogée de la peur dure 8 minutes et fait bien rire les amis de notre touriste spatial. Bon, là, c'est un débat entre deux astronautes qui veulent savoir si oui ou non ils ont la tête en haut ou la tête en bas alors qu'ils sont
oui,
en apesanteur.
Ça n'a pas l'air terrifiant, là. Hein.
Non, mais c'est je vous dis, le scénario est en béton armé. Le casting a été assuré sur place puisque les comédiens sont donc des astronautes de la NASA. Les décors sont ceux de l'intérieur de la station spatiale. Bref, toute la recette du succès. Sauf que la NASA n'est pas contente du tout et interdit la diffusion du film parce qu'il a été tourné dans, je cite, ses locaux et avec son personnel. Richard Garriott réagit avec humour en disant que ce film est peut-être un peu trop ludique pour la NASA. Grâce au web, vous pourrez quand même vous le regarder sur le site Gizmodo. Donc, c'est un screener, c'est-à-dire que quelqu'un a filmé l'écran sur lequel l'apogée de la peur a été projeté. Aucun risque de gagner un Oscar, c'est même assez drôle. Mais il s'agit quand même, et on le retiendra, du premier film de SF vraiment tourné dans l'espace.
Mathieu Beauval, les choix dans l'hyper revue de presse, la presse et Internet. Et puisqu'on parle de la vie des médias, on voudrait vous dire un grand merci puisque Médiamétrie a livré ce matin ses derniers résultats d'audience pour le mois de novembre et le mois de décembre. Et vous êtes maintenant 4 700 000 auditeurs à suivre France Info chaque jour. Vous êtes précisément 344 000 auditeurs de plus que l'an dernier à la même époque. Merci de votre écoute, merci d'être là. On va continuer à essayer de vous informer le mieux possible.